Melody, la radio vintage forever.
Il fait partie de ces voix qui ont accompagné des millions d'auditeurs, toujours avec ce mélange de jeux, de sourires, de proximité qui faisait le charme des grandes radios populaires. Fabrice est une histoire profondément liée à RTL. Les débuts en 65, les émissions musicales, les jeux, la casse trésor, le bingo et bien sûr la valise RTL. Bref, c'est une carrière qui raconte aussi une certaine idée de la radio, celle d'un rendez-vous, d'une voix familière et d'un lien quotidien avec ceux qui l'écoutaient. Fabrice, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Aujourd'hui, on vous reçoit avec grand plaisir pour la fête de la radio. Alors, ça a été un monument de votre vie, la radio. Quand je vous dis radio, vous pensez à quoi? Un couloir, une odeur, une station, une émission? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, Fabrice?
La première image qui me vient à l'esprit, je réfléchis, je ne sais pas, un studio, le micro, l'envie de parler au public, aux gens qui me faisaient l'honneur de m'écouter, le plaisir, le bonheur, une profession que j'ai adorée, voilà ce qui me vient à l'esprit.
Et vous avez toujours voulu faire de la radio? Ça a été de...
Non, pas du tout.
Pas du tout. C'était les chansons au début.
Non, le drame de ma vie, c'est que je n'avais strictement aucune vocation. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, ce que j'allais devenir. J'étais d'ailleurs relativement angoissé parce que je ne savais pas. Je n'avais pas réussi vraiment mes études à la fac. J'étais là en me demandant si j'allais devenir un épouvantable raté. C'était l'angoisse. Et le hasard, le destin a toujours fait que j'ai été remis sur les voies du show business complètement en dehors de ma volonté, non pas que j'étais contre, au contraire, j'étais ravi, mais je n'avais rien fait de particulier pour le faire, c'est le destin qui s'en est chargé, heureusement.
Heureusement pour nous, puisque vous commencez, on va y revenir en 65 sur RTL, et vous faites partie de ces animateurs dont la voix est immédiatement reconnaissable. Vous aviez conscience à l'époque de rentrer dans la vie des gens, de rentrer dans chaque foyer, de nous accompagner?
Pas encore, pas au début, non. De toute façon, le drame, c'est que je n'avais conscience de rien du tout. C'est ça qui est épouvantable. J'ai commencé à prendre conscience des choses au fur et à mesure que j'exerçais ce métier. Bon, à ce moment-là, j'ai commencé à me rendre compte, effectivement, que je rentrais chez les gens tous les jours, ce qui est une responsabilité, mais ce qui est aussi un plaisir. Mais c'est vrai qu'au départ, je n'avais pas conscience de grand-chose. Je n'étais peut-être pas très mûr, finalement. Et c'est la radio, la profession, le travail qui m'a fait mûrir. Il était temps.
Et vous vous souvenez de ce jeune Fabrice qui rentre pour la première fois chez RTL, dans cette grande maison?
Oui, oui, oui. Il s'appelait à l'époque Radio Luxembourg, car ça n'était pas encore RTL. Ça l'est devenu un an après, je crois, un an et demi après. Oui, je m'en souviens très bien. J'étais un peu hagard. Je ne savais pas. En fait, j'ai été engagé par un jeune type qui prétendait être le futur directeur de RTL, le futur patron, et il allait remplacer tout le monde, etc. Moi, j'étais un peu naïf, j'étais très impressionné. Je me suis dit, formidable ce type. Et puis, en réalité, c'était faux. Mais au moins, je lui dois le fait d'être entré à RTL. Et ça, bon, ça a été la chance de ma vie, c'est sûr.
Oui, et vous étiez impressionné de ces premières fois au micro, où vous aviez peut-être l'assurance déjà d'avoir fait quelques pas dans la chanson auparavant, tiens. Évoquer les 45 tours.
Oui, je n'étais pas trop impressionné devant le micro, mais peut-être parce que je ne me rendais pas très bien compte. Et c'était des émissions, j'ai commencé par des émissions le soir entre 22h et minuit, une émission qui s'appelait Music and News. Bon, pas la peine d'expliquer ce que c'était, le titre le dit par lui-même.
Le dit très bien, oui.
Et voilà, j'étais content, je m'accrochais parce que j'avais déjà tenté beaucoup de choses que je n'avais pas réussi. Notamment, j'avais été 15 jours sur Europe 1, où l'un des grands patrons d'Europe 1 m'avait dit « Oh non, vous savez, ce métier, non, vous n'êtes pas fait pour ça, non, vous voudriez peut-être essayer d'être journaliste, tout ça. Mais animateur, ce n'est pas fait pour vous. » Bon, j'étais évidemment très déçu, et quand on connaît la suite, évidemment, bon, bah, ça, c'est un peu comique, mais c'est vrai qu'on ne peut pas toujours déceler ce que vont faire et devenir les gens, donc... Il y a bien en France des gens qui ont refusé les Beatles en édition, par exemple. Bon, alors, je ne me compare pas aux Beatles, je ne suis pas fou.
Vous pourriez.
On peut se tromper, donc je ne lui en veux pas du tout, d'autant plus que j'étais très heureux à RTL, qui était une maison tout à fait sympa.
Et vous travaillez avec les artistes, vous passiez, vous l'avez dit, le nom de l'émission, des disques. Ça faisait quoi pour vous, en tant que jeune animateur, de passer de l'autre côté peut-être, de retrouver les artistes comme un passeur de promos, de mémoire ou un passionné? Vous deveniez maître de cette programmation?
Alors, je faisais la programmation de l'émission en disque. Je programmais les disques, mais j'avais pour les chanteurs, pour les artistes en général, le sentiment que j'étais là, je vais dire les choses de façon peut-être un peu crue, pour leur servir la soupe. Je voulais qu'ils se sentent bien, qu'ils soient comme des invités, et j'étais là pour faire un peu leur promotion. Bon, quand je choisissais des disques, c'est parce que je les aimais. Bon, je n'étais pas au début un fanatique de la chanson. Moi, j'aimais le jazz, j'aimais la musique classique, etc. Et puis, je me suis rendu compte un jour, en allant voir Charles Aznavour à l'Olympia, ce que pouvait être la chanson, que j'avais une certaine tendance, comme les gens de ma génération, à mépriser un petit peu, ce qui était complètement idiot, je le reconnais, mais en fait, je ne savais pas très bien ce que c'était que la chanson, parce que ça ne m'attirait pas énormément. Et puis après, quand j'ai vu sur scène un artiste du calibre d'Aznavour, je me suis dit, mais oui, mais la chanson, ça peut vraiment être quelque chose de tout à fait remarquable. Une chanson, c'est une petite dramatique en 3 minutes, et il y a une qualité d'écriture, et même de composition de chansons, de composition de musique chez Aznavour, qui m'avait frappé. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à la chanson. Et puis l'arrivée des Beatles, n'oublions pas, qui a été une révolution extraordinaire. Et là, je me suis dit, oh, la variété, quand même, il y a des trucs qui sont vraiment bien. Et alors là, j'ai commencé à embrayer. Et ça allait bien, puisque je faisais ce métier. Valait mieux quand même que je m'y intéresse.
Ben oui, et puis surtout en 68, vous avez une autre émission, il me semble, je me suis noté Hop Zip Pop, où c'était le samedi soir de 20h30 à minuit, et vous étiez préposé à passer de la musique pop, et vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui se passait en 68 déjà. Enfin, forcément, c'est la pleine ébullition de tous ces groupes, de tous ces chanteurs anglo-saxons.
Alors d'abord, je ne me rappelle absolument pas cette émission. Si vous me le dites, je vous crois, bon. Donc je suppose que oui, les groupes anglais, j'en ai beaucoup entendu. J'allais à Londres, j'ai même fait des émissions à Londres, ce qui était très amusant à l'époque. Le Swinging London, c'était assez distrayant.
Ouais.
Et je me rappelle, oui, les groupes, bien sûr, il y en a eu énormément, de plus ou moins grande qualité, mais enfin, il faut reconnaître que la suprématie des Beatles était, à mon sens, absolument incontestable. Ils écrasaient tout le reste. Bon, même les Rolling Stones, qui étaient bien, bon, il y avait des très bonnes choses. Mais moi, je préférais, comme j'étais musicien, que j'aimais la musique, okay. Évidemment, les Beatles, c'était extrêmement musical. Il y avait une recherche, il y avait un sens de la mélodie qui était exceptionnel. Donc, ça me touchait plus particulièrement.
Et ce serait eux qui marque encore votre esprit dans ces années RTL où vous passiez justement, où vous programmiez des jeunes artistes qui débarquaient? Ce seraient les Beatles que vous retiendrez?
En premier, oui.
En premier, oui.
En premier, ce sont les Beatles, incontestablement, oui.
Pour nos auditeurs de Mélodie qui vous ont bien connu dans les années 70, là, il y a une émission, j'espère que vous vous en souvenez, bien sûr, c'est la Case Trésor. Est-ce que vous pourrez nous rappeler le principe de cette de cette émission et qu'est-ce qu'elle a représenté pour vous dans votre carrière ?
Alors, La Case Trésor, ça a été une émission très importante en radio. Je crois que c'est dans cette émission que j'ai atteint, j'ai revu ça l'autre jour tout à fait par hasard dans les archives en relisant certaines choses, que j'avais atteint par moment, pas en permanence, mais par moment, j'avais atteint 10 millions d'auditeurs. Aujourd'hui, ça paraît complètement surréaliste. On ne pourrait pas le faire parce que, évidemment, le PAF n'est plus ce qu'il était. Bon, il n'est plus fait de la même façon. Mais ça a été donc forcément une émission extrêmement importante pour moi et pour ma carrière et pour le plaisir que je prenais en faisant de la radio parce que j'étais sur scène devant le public. Et moi, c'est ce que je préférais de très loin. D'abord, c'était d'être en direct et ensuite d'être devant le public. La rencontre avec le public a été pour moi la surprise la plus extraordinaire de ce métier. C'est ce que j'ai préféré et c'est ce que je regrette aujourd'hui. C'est de ne plus voir le public, de ne plus lui parler, etc., etc. C'était un peu une drogue, hein, vous savez. Être sur scène, la première fois que vous faites rire un public, c'est une impression absolument extraordinaire. Vous avez une impression de complicité, d'amitié, etc. Et ça, ce sont les plus beaux souvenirs de ma carrière.
Et le jeu, en plus, a cette facilité de créer une complicité entre le candidat et l'animateur, en l'occurrence, vous, à l'époque.
Ah ben, il fallait effectivement créer une complicité et mettre les candidats à l'aise. Le public, les gens qui venaient jouer, etc., qui n'étaient pas des professionnels, on les mettait dans une situation qui n'était pas pour eux une situation ordinaire, et il y en a certains qui pouvaient être un peu déstabilisés, se retrouver dans des situations un peu compliquées. Parfois, il y a eu des choses d'une grande cocasserie, mais qui pouvaient les mettre un peu en danger. Donc, mon rôle, c'était vraiment de les mettre à l'aise, d'être leur soutien, leur traducteur, d'être avec eux, de les aider. Et je pense qu'ils passaient un bon moment, ils le sentaient. Mais je faisais la même chose avec les artistes. Moi, je n'ai jamais été déplaisant avec un artiste. Je n'ai jamais attaqué personne, dit du mal de qui que ce soit. Sur l'antenne, je voulais que l'artiste se sente parfaitement à l'aise. J'espère que c'est ce qui se passait.
C'est ce qui se passait. Puis tiens, un petit aparté, quelques années plus tard, vous allez faire La Classe avec de nombreux artistes, Olivier Lejeune, El Château et j'en passe. Là aussi, vous aviez une bande d'artistes et puis vous aviez le public qui vous écrivait énormément. J'ai entendu dire que le courrier de La Classe était incroyable à cette époque-là.
Alors ça, je ne sais pas, parce que le courrier, ce n'est pas moi qui le recevais. Alors je ne peux pas, oui, je ne sais pas du tout, mais c'est bien possible, si vous me le dites, bah, tant mieux, ça prouvait que ça intéressait les gens. Oui, c'était très amusant, La Classe, parce que j'avais une position qui était une position intéressante. Je découvrais des talents, mais je les découvrais vraiment, parce que moi, j'arrivais dans l'émission, je ne savais absolument pas ce qui allait se passer. Je ne savais pas qui allait proposer des sketchs. J'avais une liste, ce qu'on appelle une conduite dans le métier, vous connaissez ça. Et puis, je voyais, il y a un tel, je les appelais au tableau. Puis après, on improvisait. Moi, c'est un métier dans lequel j'ai toujours improvisé. Et j'étais heureux de découvrir de nouveaux talents. J'aime beaucoup rire. C'était un exercice difficile parce qu'il fallait qu'il soit drôle en 2 minutes 33 minutes, exercice délicat. Et en plus, il le faisait devant des gens qui étaient leurs concurrents. Donc, c'était très difficile et je trouvais qu'il s'en sortait dans l'ensemble plutôt très bien.
Oui, chacun avait son rôle. Olivier Lejeune jouait le Fayot.
Parce que j'ai toujours aimé, en fait, je me suis rendu compte à la fin de ma vie, à la fin de ma carrière, plus exactement, n'anticipons pas, j'aurais voulu être acteur. Et oui, en fait, j'aurais voulu être acteur. Donc, instinctivement, je faisais du théâtre et je distribuais des rôles et je donnais des surnoms aussi bien à la radio qu'à la télévision. J'ai toujours fait ça sans y réfléchir instinctivement. Et aujourd'hui, en l'analysant avec le recul, je m'aperçois qu'en fait, je voulais faire je faisais du théâtre sur scène devant le public. Un tel s'appelait comme ça, etc. J'en profite pour saluer la mémoire de ma complice Sophie Garel, qui vient hélas de disparaître, et
oui.
Qui s'appelait Mémène, et qui a été une très grande partenaire dans ma carrière radiophonique, et même télévisuelle aussi.
J'avais prévu de vous en parler, de Sophie Garel, justement. Quelle image vous revient en premier? C'est juste ces jeux entre vous, cette complicité, quand vous étiez à la radio?
Sa faculté d'improvisation, son sens de l'autodérision, sa drôlerie naturelle, son sens de la répartie, et le fait qu'on avait, je crois, ça en commun, on ne se prenait pas au sérieux. On prenait au sérieux ce qu'on faisait, mais on ne se prenait pas au sérieux. En fait, Sophie, qui avait donc quand même un côté artistique très développé et naturel, ce qu'elle aimait dans la vie, c'est être une ménagère. C'est pour ça que je l'avais surnommée Mémène, qui n'était pas un surnom d'une élégance folle, mais elle aimait être dans sa cuisine, elle aimait préparer des tartes aux abricots, etc., pour sa famille et pour ses amis. Elle était heureuse, là, épanouie. Et puis, la radio, la télévision, c'était presque une activité annexe pour elle. Et moi, ça m'amusait, ça, parce que je trouvais que elle était extrêmement naturelle et c'était ma complice. Elle me faisait beaucoup rire, je crois qu'on se faisait rire mutuellement, et on formait un couple de radio. Et ça, évidemment, je ne l'oublie pas et je suis très attristé de sa disparition.
Oui, on vous a entendu, notamment chez Laurent Ruquier dans Les Grosses Têtes, rendre hommage à Sophie Garel. Voilà, un duo qui s'est construit, vous nous le disiez, naturellement. Si on doit lui retenir une qualité, ce serait ça, sa légèreté. Vous disiez que c'était presque un second métier pour elle, la radio.
Je dirais sa fantaisie, son sens de l'improvisation et l'autodérision et la dérision qu'elle avait à propos de toute chose. Et ça me faisait rire. Elle avait beaucoup de recul, en fait. Et la gloriole du métier, elle s'en fichait éperdument. Ce n'est pas ça qui l'a motivée du tout. Ce qui l'a motivée, c'était de venir s'amuser, de parler aux gens, elle aimait bien le public, et que l'on rit ensemble. Voilà en gros le personnage qu'elle était.
Vous avez évoqué Sophie Garel et puis d'autres artistes. Vous pensez qu'à l'époque, quand vous étiez animateur vedette sur RTL, les frontières entre les artistes et les animateurs étaient peut-être plus souples qu'aujourd'hui? Vous étiez tous copains, comment ça se passait?
Ça dépendait lesquels. Le temps de l'émission, on était vraiment copains, on s'amusait, on était complices, etc., comme je les voyais quand même assez souvent, tous les jours en fait. Je les connaissais depuis plusieurs années, puis j'ai découvert des nouveaux avec plaisir, ou pas d'ailleurs, ça dépendait, mais enfin en général, avec plaisir. Mais dans la vie, on n'était pas copains parce qu'on n'avait pas tellement le temps, on travaillait quand même beaucoup, eux aussi. La seule avec qui j'ai été ami intime, c'était Sheila. On a été pendant 3 ans ou 4 ans des amis intimes. Je passais tous mes week-ends chez elle et on allait en vacances ensemble, etc. J'ai eu des copains. Monty, par exemple, était un copain de classe, donc je m'en souvenais bien entendu avec plaisir. D'autres, il y en a avec qui j'avais une complicité intellectuel ou humoristique, je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier beaucoup, mais oui. Il y avait tout de même un certain nombre avec qui je m'entendais très bien, oui, il y avait une vraie complicité.
Et il y a un grand moment, je pense, vous avez, il me semble, appris la disparition de Claude François lorsque vous étiez à l'antenne, c'est ça?
Oui, autant que je me le rappelle, c'était un samedi, j'étais à l'antenne et là on a appris... la disparition de Claude François, qui a été quand même un choc considérable, parce que moi, je le connaissais pas trop mal. J'avais été invité plusieurs fois dans son moulin à Dannemois, où on passait un week-end, enfin un dimanche extraordinaire. C'était très, très agréable. Alors, on était invité, il faisait un wagon de gens du métier, de radio, de télévision, parce qu'il n'était pas fou, il entretenait
sa notoriété. Relation.
Claude était un professionnel qui s'inspirait beaucoup des États-Unis, et il savait que les relations étaient évidemment primordiales. Et quand on partait de chez lui, on était, moi je, personnellement, j'étais très jeune, et j'étais absolument ravi, parce que c'était une vie de milliardaire, enfin c'était fabuleux. Bon, évidemment, après, j'avais un œil tout à fait favorable et une oreille lorsqu'on passait ses disques, etc.
Évidemment.
Voilà les gens avec qui j'avais un peu de relation en dehors des émissions elles-mêmes.
Et ce deuil à l'antenne, ça a été difficile d'être en direct lorsque la France entière apprend sa disparition. Comment on réagit à ce genre d'événement, à cette nouvelle ?
Ben, je ne sais pas comment les autres réagissent, mais moi, j'étais un peu, comment dire, j'étais un peu assommé, un peu sonné, un peu sidéré, comme on dit aujourd'hui. Évidemment, c'est comme quand on reçoit un coup sur la tête ou un boxeur est mis au tapis. On est dans un état de fébrilité et d'abattement en même temps. Oui, je m'en souviens très bien. C'est, je crois, le seul artiste pour qui je suis... Non, ma phrase est mal faite. C'est le seul artiste que j'ai accompagné à l'église pendant son enterrement à l'église d'Auteuil. C'était très, très impressionnant, oui. Et parce que lorsque le cercueil est entré dans l'église, il y a eu un hurlement. Je ne sais pas qui a poussé ce hurlement, si c'était sa mère ou une compagne ou une fan, je ne sais pas, c'était une femme en tous les cas.
Oui.
Et ça nous a glacé le sang parce que ce hurlement était inhumain, était atroce. Et voilà le souvenir que j'en garde. Et en même temps, la vie est quand même curieuse. Il y a ce côté sinistre et tragique de sa disparition et de son enterrement. Et il m'est arrivé en même temps ce jour-là une espèce de réflexion d'un ami qui a été une espèce de gag, quelque chose de très très drôle. Donc le mélange des deux était terrifiant. Si vous me donnez 2 minutes, je vous raconte.
Mais je vous en prie, Fabrice.
Ce jour-là, c'était un samedi, donc on est allé à cet enterrement. Et bon, moi, ça m'a frappé, je vous l'ai dit, cette histoire de hurlement dans l'église a été terrible. Et le soir, on avait un match de football au Parc des Princes avec le PSG. Et j'avais un ami pied-noir, algérois, du métier, le compositeur Jacques Harel. Et on était dans la tribune où il y a tous les gens du métier, vous savez, au Parc des Princes, et tout le monde ne parlait que de ça, forcément. On était tous abasourdis en se disant « Mon Dieu, c'est épouvantable, c'est tellement bête de mourir comme ça, en pleine gloire, à son âge et tout ça. Enfin, » On en parlait. Et vous savez que les pieds noirs étaient des gens plutôt gays dans la vie, étaient des gens, oui, qui ne sont pas doués pour le malheur. C'était des Méditerranéens. Et ils nous écoutaient, et je voyais bien que ça commençait à l'ennuyer parce que ça s'étirait, c'était sinistre, etc. Et que chez lui, l'envie de la vie et de la gaieté essayait de reprendre le dessus. Et il nous a dit à ce moment-là, alors qu'il y a eu un petit silence, il s'est engouffré dedans, et avec l'accent pied-noir et cette syntaxe particulière, il nous a dit « Oui, d'accord, mais enfin... mieux lui que nous, non ?» on s'est mis à rire, bien qu'on n'avait pas envie de rire du tout, on était triste. Mais ça nous a beaucoup fait rire et ça a un peu sauvé l'ambiance, si vous me permettez cet aparté.
Oh, vous seriez cru dans un film de Philippe Clerc, finalement, presque.
Pratiquement, oui. Mais ça pouvait être une espèce de gag. Puis la syntaxe, mieux lui que nous. Ça, c'est une formule qu'on n'aurait jamais utilisée. Mais c'était très, très amusant. Évidemment, les circonstances ne s'y prêtaient guère.
Bien sûr. Pour continuer un peu dans ce beau parcours radiophonique que vous nous avez offert, vous quittez, je crois, la présentation d'une émission régulière en l'an 2000 sur RTL. Vous avez passé 35 ans. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand on raccroche le micro? Alors, j'ai compris qu'il y avait des envies peut-être de faire comédien. Vous avez toujours souhaité devenir acteur. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti lors de votre dernière émission sur RTL?
Oh, une grande mélancolie, bien entendu. Mais je m'y étais préparé depuis toujours. Le premier jour de ma carrière, je savais qu'il y aurait un dernier jour. Et je m'étais dit, si je peux, j'essaierai de le choisir, mon dernier jour, et non pas de le subir. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire. J'ai décidé de mettre fin à ma carrière, je devais avoir à peu près 60 ans, c'était autour de l'an 2000, tout ça. Je pensais que c'était le moment de tourner une page et de faire autre chose. Et comme ils avaient un peu une envie de renouveler les cadres, je me suis dit c'est le moment d'en profiter. Alors j'ai fait savoir à la direction que moi j'étais tout à fait d'accord pour arrêter, pour partir, à condition qu'on se mette d'accord sur les modalités, ce qui n'a pas posé beaucoup de problèmes. Et puis, je suis parti. Mais le dernier jour, la dernière émission a été évidemment assez émouvante. Je me suis rendu compte de ce que j'allais perdre. Et notamment, le public, c'était une émission en public, autant que je me le rappelle d'ailleurs. Et c'est ça qui me préoccupait surtout. Je me suis dit, tiens, demain matin, je ne vais plus leur parler. Et ça me choquait un peu. C'était lourd, un peu lourd à porter, mais c'était un choix. Je l'assumais et puis voilà, j'ai survécu.
Vous aviez anticipé les volontés de la direction, puisqu'on se souvient de Philippe Bouvard qui a quitté les Grossettes pendant quelques mois et qui est revenu encore plus fort. Ça ne vous avait pas donné l'envie de revenir après, que les auditeurs retrouvent Fabrice?
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont accepté que je parte, puisque je crois qu'évidemment, ils avaient envie de renouveler les cadres, comme on dit. Puis ils se sont rendus compte que ça n'était pas si simple. Il y a eu l'histoire Bouvard avec les Grosses Têtes, et là-dessus, ils sont venus me proposer les Grosses Têtes, d'animer les Grosses Têtes. Ce qui, radiophoniquement, m'intéressait, mais d'un autre côté, ils avaient écrit dans les journaux qu'il fallait passer à autre chose, voir de nouvelles têtes, etc. Et moi, j'avais fait mes plans, mes projets, j'avais... Donc, je leur ai dit, écoutez, non, vous avez dit dans les journaux que c'était fini, on ne va pas revenir, on aurait l'air de quoi. Alors, je n'accepte pas, je ne le ferai pas. Et à ce moment-là, ils m'ont dit, mais est-ce que vous acceptez au moins de finir la saison, d'aller jusqu'au mois de juin? J'ai dit, oui, bien sûr, je continuerai jusqu'au mois de juin et après, je partirai. Voilà comment les choses se sont passées, mais ça s'est passé entre gens bien élevés et de bonne compagnie. Il n'y a pas eu de problème particulier. Maintenant, c'est vrai que ça aurait été une expérience intéressante, les Grosses Têtes. Moi, ça m'aurait intéressé, mais bon, il fallait faire un choix, je l'ai fait.
Et pour une autre émission, c'est ce que je voulais vous demander, est-ce qu'ils ne vous ont pas rappelé pour animer autre chose? Vous avez dit « ça y est, je pars ». Vous avez dit qu'il fallait renouveler, je ne veux pas revenir et perdre la face finalement.
Eh bien non, ils ne m'ont pas proposé d'autre chose, non. Je revenais en tant qu'invité sur les grosses têtes de temps en temps.
Oui.
Parce qu'en plus, je suis parti pour Bruxelles à ce moment-là, parce que j'avais dans la tête des envies de production de télé et peut-être effectivement de faire de participer à des feuilletons, des choses comme ça. Mais manque de chance, quand je suis arrivé à Bruxelles, tous les gens que je connaissais dans les chaînes de télévision différentes en Belgique, tous les gens ont été virés 15 jours après mon arrivée. Alors j'ai dit, c'est pas bon signe. Et j'ai renoncé à tout ça.
Et aujourd'hui, quand vous retournez voir Laurent Ruquier et que vous participez de temps en temps aux Grosses Têtes, vous avez l'impression de retourner à la maison, de se retrouver derrière un micro et de, comment dire ça poliment, de plaisanter, de faire des galéjades à l'antenne. Ça vous avait manqué ?
Oui, ça me manque toujours, mais en fait, oui et non, parce que RTL, entre-temps, a changé de lieu. Moi, toute ma carrière, je l'ai faite 22 rue Bayard, et aujourd'hui, ils sont à Neuilly. Donc, ça n'a strictement aucun rapport. L'environnement n'est pas du tout le même. Mais bon, quand on est devant le micro, là, la vision est restreinte et on retrouve effectivement des ambiances qu'on a connues. D'autant plus que Laurent Ruquier est absolument adorable avec moi, très, très gentil. Et je prends toujours plaisir à refaire des choses avec lui. Et là, c'est en public, donc ça me plaît, oui.
Eh oui. Alors, j'espère qu'on vous verra peut-être sur les planches, votre ami Olivier Lejeune. Pourquoi il ne vous mettrait pas en scène, tiens ?
Non, parce que d'abord, je suis un vieux monsieur. Hein, je vais avoir 85 ans aux cerises, ce qui quand même, ça commence à peser. En plus, je suis un peu fatigué. Et je vais vous dire le fond de ma pensée, ça me ferait extrêmement peur. Parce que je serais angoissé pour des problèmes de mémoire. Je n'ai pas une mémoire formidable et j'aurais peur d'oublier mon texte, d'oublier des choses. Et puis, vous savez, on ne s'improvise pas acteur. C'est un métier. Moi, mon père, j'ai eu deux pères légaux, moi, ce qui est une situation très particulière en droit français. Mais mon père biologique est l'un de mes deux pères, donc, officiel.
René Simon.
René Simon était les cours Simon, avait fondé les cours Simon et apprenait aux jeunes à devenir acteurs, enfin, les faisait travailler pour ça. Et c'est là où je me suis rendu compte quand même que c'était un métier, que c'était difficile. Et il disait toujours, pour être acteur, il faut trois choses. Et il écrivait sur un tableau noir, SAM, S-A-M. S, santé. Je n'avais pas une santé fabuleuse, mais enfin, ça allait, mais ce n'était pas extraordinaire. Bon, audace, ce n'est pas ce qui me caractérise en premier. Et mémoire, là, ce n'est pas une très, très bonne mémoire. Donc, est-ce que j'aurais été armé pour faire ce métier ? Je ne sais pas du tout. Puis c'est un métier que je respecte. J'aime beaucoup les acteurs. Et je trouve qu'en France, on a de la chance parce qu'on a beaucoup de très bons acteurs. Mais je regarde toujours ça avec un grand intérêt. Cela dit, moi, je crois que mon point fort, c'était plutôt l'improvisation.
Et vous nous l'avez montré.
Je tenais de mon père, René Simon, qui improvisait beaucoup, oui.
Il improvisait beaucoup ?
Ah oui, il faisait des cours magistraux qui duraient 3 ou 4 heures. Et il improvisait sur scène pendant 3 ou 4 heures. Dans des conditions très proches d'ailleurs de celles que j'exerçais à RTL, il était debout devant un pupitre, comme moi exactement, ou plutôt moi comme lui, et il parlait à un public. Ben, c'était exactement la même chose.
Et ça, le public, vous nous avez enchanté pendant tant d'années pour cette fête de la radio. J'aimerais qu'on termine simplement par... Voilà, une petite question, peut-être simple, mais qu'est-ce que la radio vous a donné ? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette radio ?
La liberté. La liberté d'exercer un métier qui me plaisait, la liberté de connaître le public, la liberté de pouvoir vivre confortablement de mon activité, la liberté de l'improvisation, la liberté de rencontrer des gens et la liberté aussi, lorsque j'ai terminé une émission, de redevenir la personne, j'allais dire civile, la personne que j'étais dans la vie, qui ne faisait pas partie du showbiz. Lorsque le rouge s'éteignait, je redevenais un citoyen lambda. Je retrouvais, moi, ce qui était important, c'était ma famille, ma femme, ma fille, ma maison, etc. Et mes amis, j'aimais beaucoup mes amis. Là, je viens de perdre un ami très cher de plus de 60 ans, qui était le chanteur Romuald. Je pense que vous en avez entendu parler. Bien sûr, vous soyez très jeune. Et ça m'a fait beaucoup de peine. C'était mon complice, etc. On jouait au tennis, on allait au match de football. Tout ça aussi, ça avait une certaine importance dans ma vie. Et grâce à RTL, qui était une maison assez familiale, où on avait le... Philippe Labreau disait toujours à propos de RTL, c'est maman RTL. Ben, ça n'était pas entièrement faux. Il y avait une espèce de confort psychologique à l'intérieur de cette maison où les gens étaient de qualité depuis depuis l'élite de la maison jusqu'aux personnes qui avaient les emplois les plus modestes. C'était tous des gens de qualité. Et ce qui faisait que la vie était bien agréable. Tous les jours, j'étais content de les retrouver. Voilà ce que m'a apporté RTL. Et j'y pense toujours avec émotion. D'ailleurs, il y a des gens de RTL que je continue de fréquenter. Mon ami André Torrent, par exemple, avec sa femme, qui sont extrêmement sympas. Monique Lemarcy, qui était la directrice des programmes. Et on se téléphone, on se tient au courant, on partage nos peines parce qu'hélas, quand on s'appelle, c'est bien souvent pour des nouvelles assez tristes. Mais je ne veux pas vous attrister, vous êtes jeune, vous avez la vie devant vous. Profitez-en, voilà le conseil que je peux vous donner. Profitez-en, soyez heureux dans votre métier, soyez heureux dans la vie et pensez toujours que le public peut être votre meilleur ami.
Écoutez, merci Fabrice, je crois que c'est une belle conclusion pour terminer cette interview pour la fête de la radio. J'en prends bonne note. Et puis, merci et sachez que vous êtes toujours le bienvenu chez Mélodie Radio et Mélodie Télé, bien sûr.
Avec plaisir, vous m'invitez et je viens et on bavarde de choses et d'autres sur le métier et sur la vie, si vous voulez.
Merci beaucoup Fabrice et puis à très bientôt alors.
À bientôt, absolument.
Mélodie, la radio vintage, forever.